Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Ces petits morceaux d'espace visuel dont la connexion n'est pas donnée d'avance. Par quoi voulez-vous qu'ils soient connectés sinon par la main?
Sur les chemins du vendredi, où chaque semaine nous donnons la parole aux philosophes contemporains qui s'aventurent dans les dédales de la pensée. Pensée classique ou pari fou, philosophie première ou transdisciplinaire, notre seul but est de vous faire voyager encore et toujours dans et sur les chemins de la connaissance. Nouveauté en cette rentrée, les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie, que vous retrouvez à 10h50 du lundi au jeudi, se transforme cette année tous les vendredis en petit précis philosophique à l'usage des candidats. Vous la retrouverez donc aujourd'hui en fin d'émission pour donner quelques conseils philosophiques à Alain Juppé. Et aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Jean-Yves Pouilloux, professeur émérite de littérature à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, spécialiste de Montaigne et qui fait paraître dans la collection L'Infini des éditions Gallimard un essai qui fait se rencontrer Nicolas Bouvier, Marcel Proust, Alexandre Lannes, Raymond Queneau, Maurice Merleau-Ponty et tous ceux pour qui l'écriture est moins une entreprise de création que de traduction. Bonjour à vous Jean-Yves Pouilloux.
Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil. Et voici que, dans la nuit qui gagne l'espace tout entier, un souffle d'ombre me baigne et m'accueille à la fourche de ses branches flexibles. Les étoiles se sont levées, beaucoup clignotent. Juste à la cime du frêne presque invisible, le signe du berger, à la fois orange et bleu, règne sur tout ce pan d'un bleu si noir qu'on le touche. Dans la clarté opalescente de la nuit d'été, un arbre, inscrit en moi, palpite faiblement, à peine perceptible, et je sens que c'est lui qu'il me faudrait entendre, trace déposée dans le cheminement du jour, qui est la vérité de mon regard et que je ne connais pas.
De lire les dernières lignes de votre ouvrage, Jean-Yves Pouilloux, une fois n'est pas coutume. Nous ne commençons pas avec le début, mais avec la fin.
En effet.
Mais il me semble que c'est la meilleure entrée en matière dans cet ouvrage qui est le vôtre et qui s'intéresse à des, je l'ai dit tour à tour, à des auteurs de littérature, de philosophie, un peintre également, Alexandre Lannes, et qui ont tous en commun le souci que vous nommez à la fin de cet ouvrage et à travers vos mots, cela donne cette phrase, hein, cet arbre inscrit. En vous, dites-vous, qui palpite faiblement, à peine perceptible, et je sens que c'est lui qu'il me faudrait entendre, trace déposée dans le cheminement du jour, qui est la vérité de mon regard et que je ne connais pas. Quelle meilleure façon, finalement, de parler, de réfléchir sur la littérature, que de s'interroger de manière personnelle sur la possibilité que nous avons de traduire en mots ce que nous éprouvons.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, mais à condition de s'entendre sur le mot littérature, parce qu'il y a, il y a de la littérature, si je peux dire, de distraction, de les romans policiers, les, etc., qui sont très respectables. C'est pas de celle-là tout à fait que je m'occupe. Je m'occupe des textes qui, d'une façon ou d'une autre, avec des voix très différentes les unes des autres. Il est évident que Nicolas Bouvier et Pierre Michon, par exemple, ont à la fois beaucoup de points communs et beaucoup de divergences. Il est évident que Raymond Queneau et Marcel Proust ont énormément de points communs et énormément de divergences. Mais il m'a semblé, à un moment de ma vie, ça m'est arrivé, qu'il nous permettait d'avoir un accès à une vérité de nous-mêmes qui était plus profonde que celle dans laquelle nous vivons d'habitude. Pour dire les choses très très simplement, il est évident que tous les textes que j'ai écrits là, qui sont réunis, sont influencés par la lecture de Marcel Proust, qui est certainement celui qui m'a formé, si je peux dire, dans sa sensibilité, dans son rapport au monde extérieur, bien sûr, et surtout dans son rapport à sa vie intime, à sa vie intérieure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 3 épisodes dans la recherche qui sont tout à fait étonnants. Le premier, c'est du côté de chez Swann, au début, où le jeune narrateur voudrait vraiment devenir un écrivain. Roucoule des vers à la duchesse de Guermantes. Et puis, dans les promenades qu'il fait avec son père et son grand-père, il ramasse des tas d'impressions fugitives qui sont un reflet sur une ardoise, un caillou, le son d'une cloche dans un clocher. Et puis, il les ramasse, mais il ne sait pas quoi en faire. Elles sont comme exactement la haie d'aubépine, elles sont tout à fait attrayantes, elles sont touchantes, mais plus il va vers la haie d'aubépine, moins il l'attend. Il y a un deuxième épisode, c'est beaucoup plus tard, c'est quand la promenade en calèche avec Madame de Villeparisis, c'est le fameux épisode des 3 arbres du Dyménil, où le narrateur voit sur le long du chemin 3 arbres qui lui font signe, dit-il. Désespérément, et qu'ils lui disent « ce que tu n'apprends pas de nous aujourd'hui, tu ne l'apprendras jamais ». Et puis la calèche passe et finalement les arbres retournent dans le néant. Dans le néant, à la fois il y a une inscription dans la mémoire, mais il n'y a pas eu de contact véritable avec les arbres. Et le troisième épisode, c'est dans cet extraordinaire morceau à la fin du temps retrouvé, enfin dans le temps retrouvé, qui s'appelle, si je me rappelle bien, l'adoration perpétuelle, et où le narrateur revient après un long séjour en maison de repos et va l'après-midi du prince de Guermantes, et les pavés inégaux, parce que il y a des travaux, etc., donc les pavés inégaux, tout d'un coup ressuscitent en lui, dans son corps.
Il trébuche sur un pavé. Exactement. Et le mouvement même, le fait de trébucher, le projette des années avant.
Les années avant, sur le
pavé de la place de Venise, place Saint-Marc de Venise.
Sur la mosaïque de Saint-Marc. Et tout d'un coup, il y a une sorte d'intériorisation en lui de ce qui était la présence sensible du monde, qu'il n'avait pas réussi à atteindre par les moyens classiques, par la philosophie classique, si vous voulez. La philosophie classique, il y a un sujet, il y a le monde, le sujet regarde le monde, et le monde, normalement, est saisi comme un spectacle. Et là, c'est quelque chose de très différent, parce que tout d'un coup, le narrateur comprend qu'il y a en lui, dans son corps, physiquement, une empreinte qui a été déposée par une expérience, et que c'est cette empreinte qu'il lui faut retrouver. Il a cette phrase que je crois je cite plusieurs fois, le petit sillon qu'une aubépine a déposé en nous. C'est ça que nous trouvons trop difficile de chercher à l'apercevoir, alors que c'est ça qu'il faudrait absolument essayer de retrouver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le monde au dehors, mais il y a l'empreinte d'un événement, l'irruption, si vous voulez, du réel, pour parler un peu comme Lacan, l'irruption du réel qui s'est faite en nous, et c'est cette irruption qu'il s'agit de retrouver. Et c'est pour ça que j'ai été tellement fasciné par la lecture du texte posthume de Merleau-Ponty, qui s'appelle « Le visible et l'invisible », et que Claude Lefort a eu la piété remarquable de mettre à jour et de publier dans la collection Telle chez Gallimard, et où le dernier chapitre, qui s'appelle « L'entrelac, le chiasme », dit exactement ça. C'est-à-dire, on voit très bien que Merleau-Ponty a beaucoup lu et relu Proust. D'ailleurs, il dit à la fin de son texte, personne n'est allé plus loin que Proust dans cette voie, etc. Parce que Proust est un philosophe. Proust est avant tout un philosophe.
Alors on va les écouter, tour à tour, Merleau-Ponty d'abord, Marcel Proust ensuite.
À la fois, nous voyons les choses elles-mêmes en leur lieu, où elles sont, selon leur être qui est bien plus que leur être perçu, et à la fois nous sommes éloignés d'elles de toute l'épaisseur du regard et du corps. C'est que cette distance n'est pas le contraire de cette proximité. Elle est profondément accordée avec elle, elle en est synonyme. C'est que l'épaisseur de chair entre le voyant et la chose est constitutive de sa visibilité à elle comme de sa corporéité à lui. Ce n'est pas un obstacle entre lui et elle, c'est leur moyen de communication. C'est pour la même raison que je suis au cœur du visible et que j'en suis loin. Cette raison est qu'il est épais, et par là naturellement destiné à être vu par un corps. Ce qu'il y a d'indéfinissable dans le quale, dans la couleur, n'est rien d'autre qu'une manière brève, péremptoire, de donner en un seul quelque chose, en un seul ton de l'être, des visions passées, des visions à venir, par grappes entières. Moi qui vois, j'ai ma profondeur aussi, étant adossé à ce même visible que je vois et qui se referme derrière moi, je le sais bien. L'épaisseur du corps, loin de rivaliser avec celle du monde, est au contraire le seul moyen que j'ai d'aller au cœur des choses en me faisant monde et en les faisant chair.
Même dans les oies artistiques, qu'on recherche pourtant en vue de l'impression qu'elles donnent, nous nous arrangeons le plus vite possible à laisser de côté comme inexprimable ce qui est précisément cette impression même, et à nous attacher à ce qui nous permet d'en éprouver le plaisir sans le connaître jusqu'au fond, et de croire le communiquer à d'autres amateurs avec qui la conversation sera possible, parce que nous leur parlerons d'une chose qui est la même pour eux et pour nous, la racine personnelle de notre propre impression étant supprimée. Dans les moments même où nous sommes les spectateurs les plus désintéressés de la nature, de la société, de l'amour, de l'art lui-même, comme toute impression est double, à demi engainée dans l'objet, prolongée en nous-mêmes par une autre moitié que seuls nous pourrions connaître, nous nous empressons de négliger celle-là, c'est-à-dire la seule à laquelle nous devrions nous attacher. Et nous ne tenons compte que de l'autre moitié qui, ne pouvant pas être approfondie parce qu'elle est extérieure, ne sera cause pour nous d'aucune fatigue. Le petit sillon que la vue d'une aubépine ou d'une église a creusé en nous, nous trouvons trop difficile de tâcher de l'apercevoir. Mais nous rejouons la symphonie, nous retournons voir l'église, jusqu'à ce que, dans cette fuite loin de notre propre vie, que nous n'avons pas le courage de regarder et qui s'appelle l'érudition, nous les connaissions aussi bien, de la même manière, que le plus savant amateur de musique ou d'archéologie. Aussi, combien s'en tiennent là qui n'extraient rien de leur impression? Vieillissent, inutiles et insatisfaits, comme des célibataires de l'art.
Si vous aussi, chers auditeurs, en entendant ces textes, vous avez les poils qui se dressent sur les bras et les mêmes émotions que nous ressentons en ce moment même en studio avec Jean-Yves Pouilloux, eh bien lisez le livre de Jean-Yves Pouilloux, parce que c'est le genre de sensation qui surgissent quasiment à chaque page, car vous avez le courage, dans ces textes, de poser la seule question au fond vraiment passionnante, parce que insoluble lorsqu'on réfléchit à la littérature et à la création en général, la création de la pensée, c'est celle de savoir comment faire pour restituer l'impression première ou l'intuition première dans notre rapport au monde qui survient avant le langage, avant la mise en forme à travers les mots, et que tous les auteurs, philosophes, écrivains, même peintres, ont passé leur vie à essayer de dire, hein, pour paraphraser Bergson, qui dit qu'au fond, les philosophes n'ont qu'une intuition simple, un point extraordinairement simple, si simple qu'il a passé toute sa vie à essayer de le dire. Et c'est ça, en fait, le problème de la mise en forme dans l'écriture d'une intuition.
C'est tellement vrai. Je vais vous dire, j'ai eu un itinéraire assez chaotique, académiquement mal perçu par mes collègues et par mes maîtres, entre guillemets, à part des gens comme Claude Lefort, par exemple, qui était une très grande gentillesse avec moi. Et j'ai eu l'impression que je me faisais des idées bizarres, c'est-à-dire que les canons ou les règles habituelles de la pensée me paraissaient caduques, me paraissaient sans consistance. J'ai lu assez tardivement un texte d'un grand poète autrichien de la fin du 19e siècle qui s'appelle Hofmannsthal, qui est c'est le monsieur qui a rédigé tous les livrets des opéras de Strauss. Et Hofmannsthal a écrit deux textes brefs que je recommande très très vivement à tous les gens qui sont avides de la vérité. L'un, c'est la lettre de Lord Chandos à Sir Francis Bacon sur les raisons qui l'amènent à cesser d'écrire. Et l'autre est un texte en plusieurs épisodes qui s'appelle « Les lettres du voyageur à son retour ». Ce sont deux textes qui ont eu une certaine faveur avec le surréalisme débutant, c'est-à-dire que les surréalistes au début ont parlé assez souvent de ces textes. Qu'est-ce qu'il raconte ? J'ai essentiellement dans le deuxième texte, le premier texte, j'en ai fait une citation dans mon livre, mais dans le deuxième texte, que j'ai pas eu l'espace pour citer, il raconte comment un homme qui a vécu toute sa vie loin de son pays natal, l'Autriche, revient et a la sensation extraordinairement décevante que toutes les choses sont grises, sans couleur, sans épaisseur, sans vie. Et puis un jour, dans une rue, il passe devant une petite galerie de peinture et il tombe sur des tableaux qui, d'un coup, lui rendent la couleur du monde. Ces tableaux sont des tableaux de Van Gogh. Et cette exposition de Van Gogh, des tableaux de Van Gogh, restitue à ce voyageur la chair du monde, parce que je ne vois pas d'autre mot, c'est-à-dire son épaisseur. C'est que je reprends
le Merleau-Ponty.
Exactement, hein. Je reprends le mot de Merleau-Ponty. Et c'est impressionnant parce que c'est un texte qui est c'est magnifique, c'est très bref, vraiment ça existe en livre de poche, surtout ne vous privez pas. C'est un texte qui a une sorte de ténuité, ça a l'air très très fragile. En même temps, pendant toute la première partie, c'est désespéré, puisque le monde est gris. Et tout d'un coup, il y a cet éblouissement qui lui vient non pas du monde réel, mais par le truchement de la peinture. Et c'est ce truchement qui lui restitue l'épaisseur du monde.
Voilà, c'est ça, mais c'est le grand aussi mérite des textes que vous rassemblez ici, c'est de ne jamais opposer schématiquement le monde intérieur et le monde extérieur, de même que le monde ici-bas est une forme de vérité transcendante à laquelle nous aurions accès dans et par l'écriture. Même chez Proust, hein, dites-vous, au fond, la lecture qui consiste à présenter La recherche du temps perdu comme étant un roman de la vérité ou de la quête d'absolu n'est pas la plus intéressante.
Non.
Puisque c'est ce que vous dites, en réalité, c'est en entrant à l'intérieur de lui-même
Tout
que le
fait.
Narrateur va trouver ce que le monde lui dit.
Tout
la façon qu'on s'arbre de s'adresser à lui, c'est ce mouvement-là, ce que vous appelez la conversion, qui est le plus difficile à effectuer.
C'est difficile parce que c'est improbable. C'est-à-dire qu'il faut passer d'un système philosophique qui est le système classique qu'on a appris à l'école, le système de la philosophie idéaliste, si vous voulez, à système. C'est pas un système. Une autre manière de penser, sentir et dire, qui est très, à bien des égards, assez proche de ce qu'on va trouver dans certains textes de Husserl. Il est, à mon avis, très symptomatique. Husserl a fait ses premiers textes sur l'expérience phénoménologique à peu près au moment où Proust écrivait ça. C'est-à-dire qu'il y a une concomitance temporelle assez étonnante. Mais Husserl ne va, à mon avis, pas assez loin. C'est-à-dire que Husserl a quand même un monde à disposition. C'est-à-dire que le monde est là, il faut d'autres êtres humains pour arriver à un « nous » qui va nous permettre de nous réassurer de l'objectivité. C'est pas du tout comme ça que Proust voit les choses. Enfin, c'est pas du tout. Si, c'est un peu comme ça. Mais ce qui me paraît tout à fait lumineux dans Proust, c'est que c'est pourquoi le mot conversion que vous avez relevé est très important. C'est qu'en fait, il faut que j'arrive à me retourner pour voir en moi la trace qui a été déposée. Il y a eu je disais tout à l'heure, pour en remplir le mot de réel dont Lacan a fait ses choux gras, il y a eu une éruption. Le réel, c'est l'impossible, hein, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être dit, mais ce qui continue néanmoins à s'écrire. Donc, et il s'agit de revenir à cette empreinte première. Et Proust l'a dit mieux que personne. Le texte qui a été lu par
Denis Podalydès.
Par Denis Podalydès, c'est tout à fait ça.
On retrouve ce petit sillon qu'une phrase
Exactement.
Musicale ou la vue d'une église a creusé en
Exactement.
Nous. Nous trouvons trop difficile de tâcher de l'apercevoir. Ce que ce texte dit aussi et pointe de manière assez cruelle, c'est pas simplement la difficulté de ressaisir dans l'écriture ce que nous vivons, c'est aussi cette pente naturelle, disons, vers une forme de paresse ou de renoncement qui fait que nous ne nous attelons pas à ce projet qui pourtant est le seul qui vaille.
Et Proust est cruel. Hein. Dans ce passage, c'est dans les deux ou trois pages qui précèdent, il dit que nous passons notre vie à côté de nous-mêmes.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, faute de cette conversion, nous menons les choses selon les rituels sociaux, amoureux, etc., etc. Mais ce qui nous concerne, nous, intimement, est effacé, ou plus exactement négligé. Et il est même très, très, j'allais dire, acerbe à l'égard de cette négligence. Hein, il dit très bien que nous avons une paresse d'être. Alors, évidemment, si je dis « nous avons une paresse d'être », ça peut paraître ridicule, mais je ne crois pas. Je crois qu'il faut un courage pour être. Et que ce courage n'est pas aussi simple. Ça vient pas de soi, si je peux dire. Ça demande, en effet, un travail. Ça demande, en effet, un effort. Et Proust l'a remarquablement compris. Et lui, il y a passé sa vie, on peut dire. Et c'est quelque chose qui me touche énormément dans le dernier texte de Merleau-Ponty, c'est que je ne sais pas si vous... Enfin, moi j'ai en mémoire la petite page où il parle du rouge, de la couleur rouge, qui est une page absolument éblouissante, qui dit il y a des tas de rouges, il y a les culottes des oeuvres, il y a les costumes des dames, il y a les serveurs tziganes de la brasserie, et il dit que le moment où nous éprouvons quelque chose, c'est quand s'abouche un monde extérieur et un monde intérieur comme les lèvres d'une plaie. Ce qui est tout à fait extraordinaire. On sent bien que c'est pas confortable. C'est pas confortable parce qu'il faut se mettre à côté de ce qui est reçu normalement, entre guillemets, comme ce qui est le monde. Mais non, le monde n'est pas ce qui est reçu normalement. Nous vivons dans un monde de fiction, un monde d'images. Pour lier ça à quelqu'un qui m'a vraiment appris à voir, à regarder en tout cas, c'est Alexandre Olane, ce peintre qui est un ami très proche, très cher, et qui expose en ce moment au musée de l'Odève, qui expose à la galerie Marie-Hélène de la Forêt d'Yvonne, rue des Beaux-Arts. Je le connais depuis 1982, et il a une obstination absolument folle à dessiner, soit au fusain, soit au lavis, soit maintenant au pinceau, des arbres, toujours les mêmes.
Bah écoutons-le, justement, parler de son rapport aux arbres et de la manière dont il essaye de les dessiner.
Je cherche très longtemps. Pour dessiner un arbre, je dois voir 50 arbres. Il y a des arbres dans lesquels je ne retrouve pas ma relation, je ne retrouve pas une relation vivante, je ne sens pas l'énergie les traverser. Mais quand un arbre finalement arrive, il y a beaucoup, beaucoup de dessins que je fais avant de savoir comment il est véritablement. Quand j'ai dessiné un arbre, il me rajeunit, il me nourrit. Mon sang il traverse mes veines. Vraiment, je trouve que quand je reviens le soir d'une séance, je ne suis pas comme maintenant ici.
La tentation serait grande, Jean-Yves Pouilloux, que en lisant le texte de Proust, qui pointe la difficulté à ressaisir ce petit sillon qu'une phrase musicale ou la vue d'une église ou d'Aubépine a laissé en nous, la difficulté de le ressaisir, pourrait conduire à une forme de renoncement de l'écriture et se tourner vers ce qui paraît être un rapport plus immédiat au monde, à savoir la peinture. Or, la façon qu'a ce peintre, Alexandre Olane, de parler de son travail, nous apprend qu'en réalité, le problème est le même.
Exactement le même. Exactement. Bon, il est bien clair que les écrivains dont sur lesquels j'ai proposé des études sont des gens qui ont une parenté entre eux. Et dans cette parenté, je crois que le fond, c'est que il y a une sorte de foi dans l'écriture, dans le travail de l'expression, pas n'importe quelle foi. C'est pas du tout du style mystique, etc. C'est la croyance, mais la certitude plus exactement, que par l'écriture, dans le mouvement même de l'écriture, je vais arriver à retrouver ce qui est le petit sillon, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est ça qui va... C'est très clair pour Bouvier.
Bouvier, oui.
Nicolas Bouvier, c'est très clair pour Pierre Michon, par exemple, qui le disent, l'un et l'autre. Lisez Nicolas Bouvier. L'usage du monde est un livre admirable. C'est pas du tout un livre d'écrivain voyageur. C'est un livre de grand poète. Et dans ce livre... Bouvier avait... ils sont partis avec Thierry Vernet jusqu'en Afghanistan avec une Topoline, une petite Fiat 500 misérable et qui les a laissés en panne un certain nombre de fois. Et Bouvier avait fait peindre sur la portière droite de cette voiture un petit passage de Rilke, qui est un passage absolument somptueux. C'est dans les cahiers de Malte Lauritz-Brigge. Et c'est un passage dans lequel Rilke dit, bien sûr, il s'agit pas de collectionner les images pour en faire des poèmes. Il s'agit non seulement de vivre des expériences, mais en plus de ça, de les ramasser et de les oublier.
C'est un texte sublime que vous citez effectivement dans les cahiers de Malte Lauritz-Brigge. Et cette importance de l'oubli rappelle les textes de Nietzsche, justement.
Absolument.
Qui montrent que pour vivre en bonne santé intellectuelle 100 ans, il faut savoir oublier,
exactement,
purger l'inconscient de cette,
exactement,
mémoire pesante.
Exactement. C'est d'une acuité d'intelligence que je trouve... Enfin, pour moi, l'intelligence n'a de valeur qu'à condition d'être sensible. Une intelligence sèche, si je peux dire, logique, uniquement logique, pour moi, n'a pas d'importance. Mais quand elle arrive à s'incarner dans une sensibilité, alors là, ça devient une merveille. Le cas de Nicolas Bouvier est patent. C'est quelqu'un qui pense avec ses doigts, avec ses bouts de doigts.
Bah, écoutons-le au micro d'Olivier Germain-Thomas, c'était en 1994.
Pour moi, quand un mot rencontre sa chose, pour la première fois, c'est aussi de la poésie. Parce que chaque chose a un mot et chaque mot a une chose. Et simplement, ces couples sont souvent très dissociés dans l'espace et dans le temps. D'autres fois, ils voisinent sans se connaître. Alors au fond, je trouve que le boulot artisanal de l'écrivain, en tout cas le mien, c'est de faire la poste entre les mots et les choses. Et lorsqu'une chose a trouvé son mot ou qu'un mot a trouvé sa chose, que les fiançailles sont bonnes, que le mariage est réussi, c'est à ce moment-là que le lecteur fait ça, il claque dans ses doigts en se disant « Mais nom de Dieu, j'aurais quand même pu y penser ».
Un petit bateau traverse l'estuaire, ce n'est pas de la navigation, cela, c'est tout au plus digne de la marine suisse. Et pourtant des dames ont le mal de mer. Un petit voyage, on dit excursion, le soir le bateau revient à son port d'attache. Et ça vous fait bouillir l'eau des bassins presque mortes. Un jour passeras-tu quelques tropiques, un jour fêteras-tu l'équateur. Un petit bateau t'emporte modique, ce n'est qu'un début du mois, sauf erreur. Quelle impression ce petit voyage en petit bateau vous a fait répondre comme il est d'usage qu'on se déclare satisfait.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Bienvenue sur les chemins du vendredi où j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Yves Pouilloux qui fait paraître chez Gallimard « L'art et la formule », un recueil de textes qui voyagent de Proust à Nicolas Bouvier, à Maurice Merleau-Ponty, à Alexandre Lannes et d'autres encore avec... pour ligne de mire, fil conducteur, cette étrange conversion qui consiste à regarder en soi pour mieux parvenir à nommer le monde.
Cette prime démarche étrange mêle la nage aux roues d'un train. Il entend demander encore si les petits bateaux vont des gens. Tout doucement, il s'endort sur cette première expérience. La 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 la. petit bateau traverse l'estuaire. Ce n'est pas de la navigation. Cela.
Magnifique interprétation par Jean-Marie Hummel du premier voyage, hein, le poème de Raymond Queneau que vous citez dans votre livre, Jean-Yves Pouilloux, et peut-être d'ailleurs la manière de comprendre la référence que vous y faites est de se référer précisément à l'archive de Nicolas Bouvier qu'on a entendu juste avant, qui disait que finalement l'écrivain, et c'est le but de l'écrivain est de faire en sorte que le mot rencontre sa chose, et il se présente comme un postier, hein, finalement, qui vient déposer le mot dans la chose.
Avec humour.
Évidemment. Mmh. Et justement, c'est là où peut-être Queneau, dans tous les écrivains que vous citez, est celui qui a sans doute le plus d'humour et qui trouve sa manière de nommer ce qu'il cherche à nommer, de mettre des termes sur son intuition, cette fois-ci le plus par le biais, la déviation, le jeu avec le langage, et qui, bien loin que de simplement se cantonner à un travail superficiel, disons rhétorique du langage, parvient à nommer et à dire ce qu'il cherche à dire depuis le début. C'est une méthode complètement différente.
Oui. Bon, j'ai eu des discussions, parce qu'évidemment, on m'a traité de doux rêveur quand j'ai raconté ça autrefois. Enfin, autrefois, quand j'ai commencé à réunir ces textes. Et puis, j'étais pas d'accord. Je me trouvais pas du tout doux rêveur. Et je suis allé chercher chez les écrivains les plus apparemment extérieurs à l'attitude, disons, tout ce que vous voulez, qui a l'air d'être le sillon que je trace. Et je suis allé chercher chez Ionesco, chez Queneau, chez Flaubert, et je me suis aperçu, sans beaucoup de recherche, que ces trois écrivains qui sont réputés pour être des ironistes, des gens qui sont très retenus du point de vue de l'affectivité, qui sont anti-sentimentaux, si je peux dire, qu'ils ont exactement par place des petits aveux, ou même des longs aveux, que c'est ça qui les intéresse au fond.
Et ce sont aussi trois bourreaux de travail. Hein,
oui, pour le aussi, coup. Bien sûr. Mais enfin, quand Flaubert dit dans une lettre à Louis Scolaire qu'il a de temps en temps des grands éclats de solaire qui le font frissonner depuis la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds, et que auprès de ça, la mort ne lui paraît pas grave, c'est pas des choses qu'on imagine mettre sous la plume de Flaubert. Et pourtant, c'est ça qu'il écrit à Louis Scolaire. Si vous lisez, il y a un merveilleux journal. Il y a deux journaux, à ma connaissance, de Ionesco. Il y en a un qui s'appelle Le Journal en miettes et l'autre qui s'appelle Passé, Présent, Présent-Passé, et où il raconte deux expériences d'illumination. Borges, qui est un fin rhéteur, ironiste, etc., etc., raconte dans un texte absolument magnifique qui s'appelle Sentirse la muerte, une commande dans une nuit avec une petite lune. Il sort dans les rues de Buenos Aires et il rencontre un pan de mur rose, et que tout d'un coup, il a le sentiment que le monde est réassuré. C'est-à-dire, Paulhan, qui est quelqu'un d'ironiste lui aussi, Jean Paulhan, pardon, qui a une mauvaise réputation, qui est de ratiocineur, etc., alors que c'est l'une des personnes les plus fondamentalement intéressées par l'attitude, je vais dire carrément mystique. Paulhan il décrit deux expériences. Une pendant la guerre, où il est dans le bombardement. C'était dans un texte qui fait partie du petit livre qui s'appelle Le guerrier appliqué. Et il est dans une masure, enfin, ou une ruine plus exactement, entre les deux fronts. Et il assiste au déferlement absolument épouvantable de la mitraille. Et tout d'un coup, il donne un coup de pied. Il y a un miroir qui n'a pas été cassé encore. Il donne un coup de pied dans le miroir. Le miroir se brise et il dit « Et je connus que je ne rêvais pas ». Je trouve cette petite allégorie extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Paulhan a écrit un texte qui malheureusement est épuisé, j'ai grand regret, qui s'appelle « Le clair et l'obscur », et qui est un texte, c'est un recueil qui avait été publié autrefois dans la collection Remarquable, le temps qu'il fait, et malheureusement j'ai essayé d'insister autant que je pouvais pour qu'on le réédite.
L'appel est lancé en tout cas, vous serez entendu.
C'est très gentil, c'est un texte absolument remarquable. Et Paulhan, qui était le ratiocineur rationaliste, etc., a de toute évidence, et Queneau aussi, hein, Queneau a une fascination pour la mystique.
Mais avez-vous remarqué que dans la plupart des écrivains que vous citez, y compris vous-même, l'extrait de la fin de votre texte qui a ouvert cette émission, font cette expérience dont vous parlez face à un arbre?
C'est vrai.
Il y a l'arbre dont vous parlez, il y a l'arbre, si mon souvenir est bon, je crois que chez Ionesco, c'était aussi face à un arbre. Dans Proust, il y a les arbres qui l'interpellent. Je pense également, vous n'en parlez pas, mais on pourrait le ranger dans cette même catégorie, à l'arbre, aux racines de l'arbre, dans la nausée de Sartre.
Tout à fait.
L'observation de Roquentin qui voit cet arbre et qui tout d'un coup se sent à la fois propulsé dans la réalité, éloigné d'elle, et pris d'une grande nausée, d'un grand dégoût. Comme si finalement la figure de l'arbre était à la fois ce que l'homme enviait, puisque l'arbre est pris dans le tissu du monde, dirait Merleau-Ponty.
Oui, tout à
fait. Et en même temps, l'impossibilité, le fait que nous ne soyons pas un arbre est ce qui fait que nous pouvons devenir écrivains.
Oui. Nous sommes privés de racines, on va dire. C'est extraordinairement important, cette sorte de... C'est pourquoi je suis fasciné par le travail d'Alexandre Lannes.
Alexandre Lannes aussi prenait les exemples des arbres.
Ce sont des arbres. Et je crois avoir compris, enfin, depuis le temps que je le fréquente, qu'il a à la fois, bien sûr, un projet esthétique. Il veut faire des tableaux, il veut faire, etc. Il en fait, très bien. Mais que c'est pas ça qui l'intéresse fondamentalement. C'est d'arriver à faire la lumière, ou le plus de lumière possible, sur son rapport au monde. C'est-à-dire que c'est comme si, bon, c'est un peu injuste que je vais dire, un peu faux, mais le tableau n'est pas seulement une œuvre en soi, c'est aussi un moyen. Un moyen pour explorer le plus soigneusement possible, le plus prudemment possible, quel est le rapport que chaque être, finalement, a avec le monde.
Vous ne croyez pas que c'est vrai de toutes les œuvres d'art? Quelles sont des tentatives pour l'artiste d'exprimer le rapport qu'il a à ce monde?
Disons qu'un certain nombre d'entre elles, c'est plus visible. Si je prends Turner, par exemple, ça va sauter aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que Turner, moi j'ai une admiration infinie. Je voudrais simplement vous rappeler une chose. Proust, qui a lu Ruskin, qui était un grand historien et exécuteur testamentaire de Turner, Proust a écrit... En citant Ruskin, c'est par ses yeux fermés à jamais au fond du tombeau que des générations qui ne sont pas encore nées verront la lumière du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cette phrase. Je crois en effet que c'est, pour moi, c'est ça, la puissance. C'est vrai pour Rembrandt. C'est évidemment vrai pour Rembrandt. C'est-à-dire qu'il y a des peintres chez qui c'est plus sensible que chez d'autres. Je suis moins... Je prends Mondrian, par exemple. Je prends les premiers tableaux de Mondrian. Ils sont absolument saisissants. Il y a un tableau que je me rappelle comme si je l'avais vu il y a 10 minutes. C'est un tableau qui représente un arbre qui est sur une île avec une maison juste derrière.
On retrouve l'arbre.
Et c'est absolument saisissant. C'est magique. C'est tout d'un coup, il y a une sorte de puissance de chair, pour reprendre le mot de Merleau-Ponty, qui s'impose entre le tableau et le spectateur. C'est plus compliqué pour la littérature parce que les mots sont un truchement plus sournois, je dirais. Les mots mentent plus facilement que les couleurs.
Et encore, les artistes sont tributaires de certaines couleurs et des mélanges qu'ils peuvent obtenir en les fondant entre elles.
Bien sûr.
De même que l'écrivain est tributaire des mots et de l'agencement qu'il peut en proposer.
Bien sûr. Mais c'est très étonnant. La palette normale, si je peux dire, d'un peintre, c'est entre 5 et 6 couleurs différentes. Si vous allez chercher la palette de Cézanne, je crois qu'il en a 14 ou 17, je sais plus. C'est-à-dire un nombre infiniment supérieur. Du moins à partir du moment où il a commencé à peindre ses timbres-poste, vous savez.
Alors, il y a des écrivains aussi qui procèdent en peintre. Alors, j'aimerais qu'on termine cette discussion, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, Jean-Yves Pouillot, en écoutant un dernier texte, un texte de Proust qui pose la question, qui finalement était en filigrane présente tout le long de cette discussion, de savoir si finalement l'artiste n'est pas tant celui qui crée que celui qui traduit ce qui est déjà là. Écoutez.
Si la réalité était cette espèce de déchet de l'expérience, à peu près identique pour chacun, parce que quand nous disons un mauvais temps, une guerre, une station de voiture, un restaurant éclairé, un jardin en fleurs, tout le monde sait ce que nous voulons dire. si la réalité était cela. Sans doute une sorte de film cinématographique de ces choses suffirait, et le style, la littérature, qui s'écarterait de leurs simples données, serait un hors-d'œuvre artificiel. Mais était-ce bien cela, la réalité ? Si j'essayais de me rendre compte de ce qui se passe en effet au moment où une chose nous fait une certaine impression, soit comme ce jour où, en passant sur le pont de la Vivonne, l'ombre d'un nuage sur l'eau m'avait fait crier « Zut alors !» en sautant de joie, soit qu'écoutant une phrase de Bergotte, tout ce que j'eusse vu de mon impression, c'est ceci qui ne lui convient pas spécialement, c'est admirable, soit qu'irrité d'un mauvais procédé, Bloch prononça ces mots qui ne convenaient pas du tout à une aventure si vulgaire, qu'on agisse ainsi, je trouve cela tout de même fantastique. Soit quand, flatté d'être bien reçu chez les Guermantes, et d'ailleurs un peu grisé par leur vin, je ne pouvais m'empêcher de dire à mi-voix, seul en les quittant, ce sont tout de même des êtres exquis avec qui il serait doux de passer la vie. Je m'apercevais que ce livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur.
Je ne remercierai jamais assez les éditions Thelem d'avoir pris l'initiative de faire lire l'intégralité de la recherche du temps perdu par des lecteurs hors pair, dont Denis Podalydès, qui vient d'interpréter ce passage du temps retrouvé, qui résume, enfin si résumé il peut y avoir, hein, mais le geste qui est le vôtre dans cet ouvrage, Jean-Yves Pouille, L'art et la formule, finalement s'interroger sur les moyens que nous avons, que ces auteurs ont et que vous avez en tant qu'écrivain, de traduire cette impression, intuition première, qui est en deçà des mots et qui justifie que nous passions notre existence peut-être à chercher les termes pour la partager, pour la ressaisir.
Je crois que vous avez raison. Je crois que j'ajouterais juste un mot. Bien sûr, c'est perceptible dans les écrivains, en particulier ceux dont je me suis occupé. Mais je crois que c'est perceptible aussi dans la parole de chaque être humain, dans chaque être vivant. Je crois que si la psychanalyse pouvait avoir des efficacités intermittentes, ce serait de ramener chaque être parlant à la vérité originaire de sa parole.
Puissiez-vous être entendu par tous les psychanalystes. Merci à vous, Jean-Yves Pouilloux. Un grand merci infiniment d'être venu nous parler de votre livre. L'art et la formule, c'est dans la collection L'Infini, chez Gallimard.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Thank you.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est l'heure de retrouver, comme tous les vendredis désormais, Géraldine Mosna-Savoie qui vous propose son petit précis de philosophie à l'usage des candidats. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Alors à quel candidat avez-vous choisi de dispenser vos conseils?
Alors aujourd'hui, Alain Juppé, parce qu'après le concept d'intérêt général humain de Jean-Luc Mélenchon, on peut rester sur le concept, et c'est celui d'identité heureuse. Quel est donc cet art de l'identité heureuse tant défendu par Alain Juppé?
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire? Je vais pas me présenter du tout.
Mardi 13 septembre, Alain Juppé donnait le coup d'envoi à Strasbourg de sa campagne pour les primaires des Républicains et plus largement de sa campagne pour l'élection présidentielle d'avril et mai prochain. Mardi 13 septembre surtout, il persévérait dans une voie qu'il avait déjà ouverte il y a 2 ans.
La France serait condamnée à la médiocrité? La France serait condamnée au déclin, la France serait condamnée à la peur de l'eux-mêmes, à la peur des autres, à la peur de l'avenir. Pour ma part, je le proclame à nouveau ce soir, je dis non au pessimisme, je dis non au déclinisme, je dis non au renoncement. Car la France ne serait pas la France sans sa grandeur, sans sa douceur de vivre, sans le bonheur d'espérer. Dans cette campagne, contre vents et marées, je porte une idée, qui est un peu plus qu'une idée. Je dirais un idéal. C'est celui de l'identité heureuse.
Alain Juppé persévère donc dans la voie de l'identité heureuse, celle qui a déjà tant fait couler d'encre, suscité tant de commentaires et de sarcasmes. Et pourtant, force est de lui reconnaître que rares sont les candidats, et même tous les politiques, à miser avec tant de ferveur sur le bonheur.
Mais disons les choses comme elles sont. L'identité heureuse, pour les 6 millions de chômeurs qui regardent le plein emploi aux États-Unis, le plein emploi en Grande-Bretagne, le plein emploi en Allemagne, l'identité heureuse dans une communauté nationale qui se demande si le pays qu'ils ont reçu de leurs parents et de leurs grands-parents, ils pourront le transmettre à leurs enfants, l'identité heureuse pour des classes moyennes écrasées d'impôts.
Et l'anaphore de Nicolas Sarkozy de continuer encore sur plusieurs secondes sur le malheur français. Mais finalement, la question se pose, pourquoi le malheur est-il le grand gagnant des programmes? Pourquoi les politiques, et même les intellectuels, c'est à Alain Finkielkraut, je le rappelle, que l'on doit cette idée d'identité malheureuse, parie sur l'inquiétude et le désenchantement? Pourquoi, quand Alain Juppé affirme l'identité heureuse, d'autres lui répliquent ceci?
Il n'y a pas d'identité heureuse aujourd'hui. C'est une grave erreur que de le penser. C'est une immense naïveté que de l'imaginer.
Naïveté, monde des bisounours, candeur, le bonheur à mauvaise presse aujourd'hui. Il faut bien souligner le bonheur et aujourd'hui. Parce que ce n'est pas l'identité qui est ici critiquée, mais bien l'idée que l'on pourrait être optimiste alors que le pays est à ce jour en pleine crise. Inversons donc la question. Non pas pourquoi le malheur est-il gagnant, mais pourquoi le bonheur est-il si repoussant aujourd'hui? Pourquoi le bonheur est-il à contre-temps? Et à défaut d'être dans l'air du temps, pourquoi n'est-il plus au moins un idéal à atteindre, une promesse politique pour l'avenir, telle qu'il l'était dans les pensées antiques? Pourquoi donc n'y a-t-il plus de bonheur? Dans les politiques, Aristote, par exemple, faisait du bonheur la finalité de toutes les communautés politiques, le bien le plus éminent entre tous, et il ajoutait que ce n'est pas seulement en vue de vivre, mais plutôt en vue d'une vie heureuse qu'on s'assemble en une cité. Alain Juppé voudrait-il donc relever le défi de renouer avec la vision antique de la politique dans notre époque moderne où le bonheur est une affaire privée?
Mes chers amis, le choix qui se pose à nous est simple. Voulons-nous ressasser à l'infini nos peines et nos malheurs en décrivant sans relâche une réalité toujours plus sinistre? Voulons-nous pleurer encore et toujours sur notre grandeur perdue et notre puissance déchue? Ou voulons-nous recueillir ce qu'il y a de meilleur dans l'histoire et sur le sol de France? Voulons-nous renouer avec notre destin? Pour ma part, j'ai choisi. Devant vous, je m'engage parce que je veux être porteur d'espérance. Je m'engage parce que je veux une France puissante, fidèle à elle-même et à sa vocation universelle.
Alain Juppé a donc choisi toujours et encore le bonheur à tous les temps et partout. Mais il y a pourtant un paradoxe, avant même d'y voir un défi, à envisager l'avenir sur un mode foncièrement passéiste. Non pas seulement parce qu'Alain Juppé convoque la fidélité à la tradition, à l'histoire, à l'héritage, mais justement parce qu'il met en jeu une conception profondément antimoderne de la politique. Or, comment se tourner vers l'avenir ainsi? Et puis surtout, est-il possible de miser sur le bonheur, valeur individuelle et désormais désuète en politique, sans être ringard? Alors, faudrait-il abandonner donné l'idée de bonheur en politique?
Alain Juppé, aristotélicien, il sera ravi de l'apprendre. Quel conseil est-ce que vous lui donnez, Géraldine?
Eh bien justement, pour ne pas abandonner l'identité heureuse, il faut qu'il lise le chapitre 2 du livre 7 des politiques d'Aristote, là où le bonheur n'a rien d'une cosmétique politique, d'une couleur de campagne, mais où l'on explique que pour viser le bonheur de tous, encore faut-il se demander quel est le bonheur de chacun, une autre manière d'articuler collectivité des anciens et individualité moderne.
Vous voulez pas vous présenter, vous, Géraldine?
Ah, j'adore.
Je voterai pour vous immédiatement.
Oh, merci.
Merci à vous, Géraldine, et merci à tous. Les Nouveaux Chemins, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine consacrée à Freud et la religion. Totem et tabou, lundi, l'avenir d'une illusion, mardi, malaise dans la culture, mercredi, et l'homme Moïse et la religion monothéiste, ça, ce sera jeudi. Pour l'heure, si vous voulez réécouter cette émission ainsi que toutes celles qui ont lieu cette semaine consacrées au thème de la police, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins, où vous pourrez réécouter les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et puis l'équipe des Nouveaux Chemins vous donne rendez-vous sur leur compte Facebook et Twitter, enfin sur le compte Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. L'équipe de Nouveaux Chemins, c'est Géraldine Mossin-Sapois, bien sûr, mais aussi Marianne Chastor, Ariane Mintz, Pierre Brossard, Antoine Ravon, Olivier Bétard, cette semaine à la réalisation, Clément Daté à la prise de son, avec Cédric Châtelus. Pour l'heure, vous écoutez France Culture. Il est l'heure de retrouver votre feuilleton quotidien, La vie moderne.